Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On arrive aujourd'hui au terme d'une petite série de prédications que je nous ai fait partager. Les deux premiers messages étaient axés sur la vie de Noé, cet homme que Dieu a trouvé juste et intègre parmi ses contemporains et à qui Dieu a demandé de construire une arche afin que sa famille, lui, et les animaux aussi, représentés par des couples, soient sauvés, épargnés du déluge que Dieu va faire tomber, et a donc a fini par faire tomber sur la terre, pour anéantir tout le reste de sa création. Parce que, comme dit Dieu, les hommes ne concevaient que le mal, et cela, Dieu ne pouvait le supporter. On avait conclu au terme de cette première prédication à une invitation qui nous est adressée aujourd'hui à tous par Jésus-Christ. C'est « Entre dans l'arche du salut », cette arche dans laquelle Jésus-Christ rassemble tous ceux qui sont sauvés, qui placent leur foi en lui. Et dans le deuxième message, on avait vu qu'après avoir été épargné, Noé a pu avoir comme un nouveau départ avec sa famille, avec les animaux. Et donc assez rapidement, le péché est réapparu par cet épisode assez honteux qu'on avait étudié la fois dernière. L'épisode où Noé, ivre, est nu sous sa tente et est vu par un de ses fils. On avait dit que, en réalité, le péché n'avait pas du tout disparu. Noé était monté dans l'arche avec son péché dans le cœur. On avait conclu au besoin de l'homme, en plus d'être épargné de la colère de Dieu, on avait dit que l'homme a besoin d'un cœur transformé. Être sauvé du jugement de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi un cœur transformé pour demeurer dans la présence, dans la sainte présence de Dieu. Aujourd'hui, on conclut cette série en laissant de côté le personnage de Noé pour aborder l'appel de celui qui est connu dans la Bible comme étant le père des croyants. Est-il besoin de le présenter ? C'est qui le père des croyants ?
Abraham.
Abraham. Amen. On lira les premiers versets du chapitre 12 de la Genèse et ensuite la totalité du chapitre 15. Donc Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 9 et ensuite tout le chapitre 15. Je lis dans la version du Semeur. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. » Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autre autel à l'Éternel et le pria. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Négev. Voici donc l'appel d'Abraham. Dieu lui fait une promesse. Il se passe beaucoup de temps. La promesse ne se réalise pas. Et je nous donc propose de lire le chapitre 15 qui intervient à un épisode où Abraham est impliqué dans un conflit entre eux et du coup, voilà, il finit par avoir la victoire, mais il reste toujours en attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Il est dit donc au chapitre 15, verset 1, « Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu ? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera de tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux, par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Les oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Lorsque le ciel fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérisiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Yébousiens. » Amen. Voici, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur la vie d'Abraham, mais j'ai sélectionné ces versets. Il serait très long de les commenter. Je vais retenir quelques idées principales dans la suite de ce qu'on avait partagé lors des deux premiers messages. Voyez, on a là un Dieu qui semble infatigable. On a là un Dieu qui persiste, qui signe. Il a créé Adam et Ève à son image. Adam et Ève ont trahi sa confiance. Il les a chassés du jardin d'Éden. Mais il a promis qu'un jour, les choses changeront. Il a observé le monde. Il a vu que les hommes ne recherchaient pas Dieu. Comme on a lu l'autre fois, les hommes ne concevaient dans leur cœur que des projets pour faire le mal. Il a dit alors, je supprime tout, je recommence tout, gros déluge. Mais de cette même création corrompue désormais par le péché, Dieu choisit Noé et Dieu lui donne la chance d'un nouveau départ. Ce nouveau départ est suivi d'un nouvel échec fracassant. Et cette fois-ci, Dieu dit, j'anéantirai plus les hommes, les animaux comme je l'ai fait auparavant, par le moyen de la pluie. Et donc on reste là sur cette situation où finalement les hommes continuent de désobéir à Dieu. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que le chapitre 11 nous parle encore d'un épisode où les hommes ensemble conçoivent le projet de monter une tour qui ira jusqu'au ciel. Comme un défi à Dieu qui est là-bas dans le ciel. Et Dieu les confond en semant entre eux des langues différentes afin qu'ils ne puissent plus d'un commun accord avoir de tels projets. On s'est dit, mais décidément, entre Dieu et les hommes, c'est une relation impossible. Et là, on voit Dieu qui revient encore. Oh là là, mais dis donc, c'est vraiment incroyable. Et cette fois-ci, les choses semblent différentes. Il a dit que Dieu appelle Abraham. Là, il ne s'appelle pas encore Abraham, le père des croyants, le père des multitudes. Il s'appelle pour l'instant Abraham. L'Éternel Dieu dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Quand Dieu avait choisi Noé, il nous avait été dit que Noé était juste et intègre au milieu de ses contemporains. Et là, on n'a aucune qualité intrinsèque à Abraham. Tout ce que la Bible nous dit, c'est que un bon matin, ou peut-être un soir, c'est pas précisé, Dieu appelle Abraham à quitter son pays. Mais pour faire quoi de nouveau? Verset 2, « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Waouh ! Le mot « béni » revient tellement de fois, on est submergé par des bénédictions. Mais quand on lit ces versets dans la suite de ce qu'on a lu, on s'est dit, mais oh là là, est-ce que Dieu ne va pas encore vers une grosse déception, une grosse déconvenue? En quoi Abraham, même avec une grosse descendance, en quoi sera-t-il bien différent de ses prédécesseurs? Il y a une différence fondamentale. C'est que à Adam et Ève, Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et j'avais dit la dernière fois que Dieu dit grosso modo la même chose à Noé. Soyez féconds, multipliez-vous. Mais on voit qu'au fur et à mesure que les hommes se multiplient, le mal se propage. Dieu ne dit pas tout à fait la même chose à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui s'engage. C'est Dieu qui construit son projet, j'ai envie de dire, tout seul, et qui demande à Abraham de le suivre. Et cet engagement que Dieu prend tout seul, on le voit dans l'image de ce rituel qui est décrit au chapitre 15, où Dieu dit à Abraham de couper en deux ses animaux, et on voit que Dieu lui-même, par ce souffle qu'il est décrit à la fin du chapitre 15, au milieu de ces animaux coupés en deux. C'était, semble-t-il, dans l'Orient ancien, un rituel, un symbole qu'on faisait entre deux parties pour faire une alliance, pour s'engager. Si je me mets d'accord avec Simon, pour sceller notre alliance, on coupe des animaux en deux et on marche tous les deux dans le sang de ces animaux-là. Qu'est-ce que ça symbolise? C'est-à-dire qu'il nous arrive la même chose que ces animaux, si jamais ils nous venaient de trahir cette alliance que nous scellons aujourd'hui. Et c'est Dieu qui passe là, dans le sang de ces animaux, et qui quelque part dit à Abraham, je tiendrai parole, je tiendrai mes promesses. Si je ne le fais pas, que je meure comme ces animaux. Gloire à Dieu que Dieu ne mourra pas. Mais c'est pour symboliser la certitude, l'assurance de ses promesses, Dieu s'engage. Cette fois-ci, Dieu prend les choses en main et à coup sûr, Dieu produira une descendance qui lui est agréable et qui aura sa bénédiction. Amen. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai tu seras quelqu'un d'important. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Ou à la fin du verset 3, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. C'est-à-dire que Dieu bénit Abraham, mais en même temps, par Abraham, Dieu va bénir des hommes de toutes les nations. C'est une bénédiction que Dieu offre aux hommes de toutes les nations, mais à travers Abraham. C'est un cadeau que Dieu fait. Mais en même temps, Dieu dit au verset 3, au début du verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. » Je me dis, mais tiens, donc si je colle les deux, c'est-à-dire que Dieu propose de bénir les hommes de toute nation à travers Abraham. Mais d'un certain côté, Dieu dit, mais ceux qui te béniront, ils seront bénis par moi. Mais ceux qui t'outrageront, ils seront maudits par moi. Voici donc que dans cette offre, j'ai envie de dire universelle, que Dieu offre à travers Abraham, il y aura donc dans l'humanité deux camps. J'essaie de le comprendre d'une manière très simple. Hein. J'espère que vous me suivez. Il y aura deux camps. Un camp d'Abraham et Dieu, suivi par tous ceux qui bénissent Abraham, et les autres qui ne suivent pas le chemin d'Abraham, qui s'opposent à Abraham, mais ceux-là, Dieu dit qu'ils seront maudits. Ceux qui béniront Abraham, ce sont ceux qui vont adhérer au modèle d'Abraham. Ce sont ceux qui vont vouloir suivre son exemple, ceux qui vont recevoir son message et suivre son chemin. Ceux-là seront bénis de Dieu. Mais ceux qui auront méprisé le témoignage d'Abraham, ceux-là, Dieu les maudira. Ils seront dans le camp de la malédiction et l'autre camp sera le camp de la bénédiction. Voici donc une bénédiction, mais qui a un certain revers de la médaille. Quelle est la réponse d'Abraham à cette immense promesse de Dieu? Pour l'instant, Abraham est un vieil homme qui n'a pas d'enfant. Et Dieu lui fait une promesse si grande. Il dit, oh là là, fou. Moi, pour l'instant, si tu veux, je n'ai même pas un seul enfant. Donc, il me parle d'une bénédiction universelle. Mais on peut comprendre que dans le cœur d'Abraham, il devait avoir quand même de la perplexité. Il devait se dire, mais waouh, qu'est-ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce qui m'arrive? En réalité, avant le chapitre 15... il ne nous est pas rapporté tellement de propos d'Abraham en tant que tel. Dieu lui dit des choses, Dieu lui fait des promesses, et il attend, il attend, il attend. Mais dans le chapitre 15 que nous avons lu, il nous a dit quelque chose de très important, qui sera bien sûr repris beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Amen. Des fois, en chrétien très spirituel, on dit, Abraham crut en Dieu, et Dieu le déclara juste. C'est pas tout à fait ça. Là, Abraham a cru ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit quelque chose d'énorme, qui est tellement différent par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui, mais il a cru. Il a fait confiance à ce que Dieu a dit. Bien que ce soit tellement loin de sa réalité, mais il a fait confiance. Et des fois, je me demande si nous, les chrétiens, est-ce qu'on fait confiance en Dieu? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? C'est-à-dire, est-ce que je crois Dieu? Tout part de là. Abraham fit confiance en Dieu et Dieu le déclara juste. Pas par rapport à comment il se comportait avant. On n'en sait rien. Contrairement à Noé où on sait, ah, il se comportait bien. Lui, on ne sait rien. Mais Dieu le choisit. Dieu lui fait une promesse énorme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le croit. Il croit en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le déclare juste. Ça veut dire quoi, Dieu le déclare juste? Parce qu'il faut comprendre ça aussi. Ça veut dire que Dieu décrète que cet homme-là, parce qu'il a cru à ce que j'ai dit, et cet homme, il me plaît. Il me convient. Il peut marcher avec moi. Je peux marcher avec lui. On est ensemble. On est dans le même camp. Le camp de Dieu et le camp d'Abraham. Cet homme, désormais, est déclaré juste, compatible avec Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Tout simplement parce qu'il a cru ce que Dieu lui a dit. Voyez, ça paraît facile aux yeux d'autres religions où on demande vraiment des efforts énormes pour plaire à Dieu. De dire là que Abraham croit Dieu et Dieu le déclare juste. Oui, mais en réalité, c'est pas si facile. Hein? C'est pas si facile. Je repense une illustration de Donald Carson, un théologien américain. C'est l'histoire de deux personnes qui marchent. Ces deux personnes marchent sur un terrain, en fait, qui est un lac glacé, gelé. Donc, un lac gelé, ça glisse un peu, n'est-ce pas? Bien. D'un côté, il y a une personne qui est sûre d'elle. Parce que ça fait longtemps que ce lac est gelé. Jamais il va se rompre. Des générations sont passées là, c'est un chemin qui est sûr. Et donc, il marche. Oh, hop, je suis sûr de moi. Allez. Vous voyez? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le lac, le sol sur lequel il est en train de marcher, se fissure peu à peu. Et à coup sûr, il tombera. Mais il ne le sait pas. Du coup, celui qui le voit se dit, mais oh là là, mais le chemin, c'est sûr, parce que regarde comment il marche bien, il est sûr de lui. Et de l'autre côté, un qui semble hésitant. Oh, c'est... Aïe, oh là là, je glisse, oh là là, attention. Oui, mais quelle est la différence du deuxième? C'est un peu puéril hein, ce que je fais comme illustration, mais je vais vous faire comprendre l'importance du fait de croire. C'est qu'en réalité, le deuxième personnage de ma petite histoire a écouté quelqu'un. Et ce quelqu'un lui a dit, écoute, passe par là. Parce que là, j'ai mis quelque chose. J'ai tracé un sentier. C'est vrai que c'est étroit, mais c'est solide. À coup sûr, tu ne tomberas pas. Et donc, celui-là a fait confiance à celui qui lui a dit, passe par là. Il est vrai qu'il semble hésiter. Mais le chemin est sûr. Pas parce que lui, il est sûr de lui. Non, il est hésitant justement. Mais il est sûr. Parce que celui qui lui a dit, passe par là, est quelqu'un de sûr et de fiable. Voyez la différence? Je répète. Quelqu'un qui marche sur un chemin avec confiance, mais qui en réalité ne sait pas que le chemin est fragile, celui-là fait confiance en lui-même, mais court à sa perte. Celui qui, malgré ses hésitations, croit fermement en la parole de celui qui lui a dit « passe sur ce chemin-là, parce que je l'ai solidifié », celui-là, bien que hésitant, son chemin est sûr. Son chemin est sûr parce que celui qui a balisé le chemin pour lui, celui-là est sûr. Croire en Dieu, croire Dieu, c'est ça. Quand Dieu me dit « fais quelque chose, suis-moi », je me lève et je le suis. Quand Dieu me parle, je l'écoute et je le crois. Peut-être aujourd'hui, nous chrétiens, des fois, on pense croire Dieu, mais en réalité, on espère que ce soit Dieu qui croit en nous. Parce que je construis mes chemins, je construis mes projets, et je veux simplement que Dieu me bénisse. Vous voyez un peu la différence? J'ai bien balisé mon chemin. Oh là là, pap, c'est clean. Maintenant, allez, je veux simplement que Dieu me donne sa bénédiction. Et puis c'est bon, je maîtrise toute la situation, c'est sous contrôle. C'est pas ça la foi. Et bien des fois, c'est ce qu'on fait sans nous en rendre compte. On construit notre vie. On trace notre chemin sans Dieu et on veut juste mettre un label. Dieu est avec moi. Quelle erreur fatale. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est sur un chemin glissant et qui ne s'en rend pas compte. Abraham, lui, il a fait le choix de croire à Dieu, de croire Dieu, quoi qu'il en coûte. C'est pour ça qu'il est le père des croyants. Parce que les vrais croyants doivent suivre l'exemple d'Abraham. Quoi qu'il en coûte, j'écoute la parole de Dieu et j'obéis. Je me mets en action en accord avec ce qu'il a dit. Amen. Abraham eut confiance en Dieu. Abraham crut Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Dieu le déclara juste. Voici donc là, je dirais, un nouveau projet. Un nouveau projet immense que Dieu construit, que Dieu initie par ses promesses à Abraham. Et on se rend compte que tout le reste de la Bible va nous expliquer comment, petit à petit, Dieu met en place ce projet à partir de la foi d'Abraham. On lit dans les prophètes, on lit dans les livres de l'Ancien Testament, deux choses importantes, deux promesses là aussi importantes que Dieu tiendra, que Dieu donne, que Dieu fait. La première promesse, c'est que un jour, Dieu viendra lui-même conduire son peuple. Un jour, Dieu viendra lui-même, en la personne de son Messie, conduire son peuple, le peuple de ses bénis, le peuple de ceux qui ont confiance en lui. Il sera à leur tête. Le jour viendra où Dieu lui-même prendra les choses en main et conduira son peuple. La deuxième promesse, parce que, je répète, il ne s'agit pas simplement d'être sauvé de la condamnation, mais il s'agit aussi que Dieu transforme le cœur. L'évangile, c'est les deux. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Et Dieu promet aussi par la bouche de ses prophètes que le jour viendra où l'Esprit de Dieu viendra changer les cœurs de l'homme, le cœur de l'homme. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je graverai ma loi dans vos cœurs. Jérémie, Ézéchiel. Et tout l'Ancien Testament nous montre l'évolution du projet de Dieu sur ces deux aspects-là. On ne sait pas, c'est flou. Mais comment Dieu va le faire très concrètement? Le Nouveau Testament nous révèle que c'est en la personne de Jésus, le Christ, le Ouin, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Les premiers mots du Nouveau Testament sont généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils de d'Abraham. Voici le maillon qui manquait. Celui en qui les promesses de Dieu à Abraham vont vraiment se réaliser, c'est ce Jésus, le Christ. Il est fils de Dieu, mais il est aussi fils d'Abraham, parce qu'il est dans la descendance d'Abraham. Ce Jésus est celui qui nous permet, par notre confiance en lui, d'échapper à la malédiction dont Dieu a parlé à Abraham. Et ce Jésus lui-même s'est exprimé. L'évangile de Jean, chapitre 3. Dans son fameux dialogue avec Nicodème, Jésus dit en Jean chapitre 3, les versets 16 à 19, « Oui, Jean chapitre 3, verset 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, comme Abraham l'a fait en Dieu, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans les ténèbres, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Jésus est celui qui nous fait échapper à la malédiction. Jésus est celui qui nous fait échapper à la perdition. Mais comment? Il faut recevoir son message avec foi avec confiance. Ceux qui sont sous la bénédiction de Jésus, eh bien, ils n'ont rien d'extraordinaire en fait, comme Abraham. C'est raison comme vous et moi. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la lumière est venue dans le monde. Eh bien, la lumière n'a pas été reçue. Sauf que dans ce monde de ténèbres, certains l'ont reçu. C'est ceux-là, les enfants d'Abraham, les vrais. Et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Amen. Quelle promesse! Jésus ne s'arrête pas là. Juste avant, il dit à Nicodème, toujours chapitre 3, les versets 5 à 8, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Pardon. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Cependant, tu en entends le bruit. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Dans Jean 3, on connaît beaucoup ce verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais quelques versets avant, Jésus parle aussi de la vie éternelle. Parce que entrer dans le royaume de Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Mais là, il dit oui, mais attention, pour entrer dans ce royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Mais Nicodème, mais comment, moi je suis vieux, mais comment je nais de nouveau? Oui, mais attends, mais qu'est-ce que tu crois? Il faut naître d'esprit. Tu es cher, tu es né d'un homme et d'une femme, oui. Ça c'est une chose. Mais pour entrer dans ce royaume de Dieu, il faut naître d'esprit. Ah, mais comment je peux naître d'esprit? Et Jésus d'expliquer, mais ça ne dépend pas de toi. C'est comme le vent. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas maîtriser d'où il vient. Par contre, tu peux en mesurer les effets. Ainsi est la nouvelle naissance, l'œuvre de régénération de l'Esprit de Dieu dans le chrétien. Et l'Évangile, c'est les deux. Croire en Jésus nous fait échapper à la perdition, à la malédiction de Dieu. Croire en Jésus nous permet d'être transformés par l'Esprit Saint que Jésus nous donne quand on met notre confiance en lui. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et je suspecte aujourd'hui qu'on mette tellement l'accent sur l'un et pas l'autre, parce que quand on regarde nos vies, on a du mal à identifier l'action de l'Esprit dans nos vies. On est bien content de dire « on est sauvé par la foi en Jésus, oh, je ne suis pas condamné, oui !» Mais si ta foi, ta confiance en Jésus est réelle, alors tu dois naître de nouveau. Alors tu me diras, oui, mais c'est facile à dire. Mais comment je peux savoir si je suis vraiment né de nouveau? La Bible, dans sa grande sagesse, a réponse à tout. Face à ces questions si spirituelles, oh là là, mais comment je vais savoir si je suis nouveau? Mais je ne peux pas, c'est le vent. Il y a des choses très concrètes. Galates, chapitre 5. Je l'avais cité un peu l'autre fois et j'aimerais approcher de ma conclusion avec ce texte. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Voyez l'épître aux Galates, il me semble que le pasteur Sylvain avait étudié il y a quelque temps. L'épître aux Galates est formidable. Je fais une parenthèse, je ne peux pas m'en empêcher parce que l'épître aux Galates est formidable. Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Parce que là, Paul, qui lui-même était pharisien, est opposé à des personnes qui veulent faire croire que oui, la foi en Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas si suffisant. Il faut obéir à la loi pour être bien parfait devant Dieu. Et là, Paul est en train de leur dire, mais attention, mais si pour toi, obéir à la loi est nécessaire pour être sauvé, mais c'est que l'œuvre de la croix de Jésus, ça ne sert à rien. Et là, dans sa méditation, Paul va remonter jusqu'à Abraham. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? En gros, dans son dialogue avec les Juifs, ils disent, mais écoute, ok, David, il est sauvé par quoi? Et il répond, David, ben, il est sauvé en mettant en pratique la loi. Moïse, il est sauvé comment? Bien sûr, Moïse, ah, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est la foi? Tu rigoles? Moïse, eh ben, il est sauvé en mettant en pratique la loi que Dieu lui a donnée, voyez? Il cite tous les exemples des patriarches de l'Ancien Testament. Et là, mais oui, mais qu'est-ce que tu crois? La foi, ça ne suffit pas, parce que tous ceux que tu cites, ils ont dû mettre en pratique la loi de Moïse pour être sauvés. Et là, Paul leur dit, mais oui, et Abraham, il est sauvé comment? Et là, ils répondent, oui, mais reste tu crois? Eh bien, en fait, avant, il n'y avait pas la loi. Mais en fait, Abraham, il obéissait à la loi sans connaître la loi. Et là, Paul répond que non. Pas du tout. La Bible dit clairement, même avant d'être circoncis, avant qu'on puisse savoir telle chose sur sa vie, Dieu le déclare juste, simplement, sur la base de sa foi. Voyez, Paul va dans cette épître aux Galates faire le lien entre l'évangile de Jésus-Christ et la source de cet évangile, qui est bien dans la promesse de Dieu faite à Abraham. Et là, qu'est-ce qu'il dit donc? Galates chapitre 5, c'était une parenthèse. Hein? Galates chapitre 5, verset 19. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Ou tout le monde voit bien tout ce qui procède de la chair. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter que ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Ah oui, quand l'esprit est présent, quelqu'un produit du fruit. Eh bien, ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. L'apôtre Paul fait là un tableau en deux colonnes. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, dans leur vie, cet esprit produit à coup sûr du fruit. Et l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut s'empêcher de vivre dans une de ces catégories qu'on a citées et il finit par dire et toute autre chose de ce genre. Alors, comment résumer tout ce qu'on a dit lors de ces trois messages? En Jésus-Christ, Dieu nous lance un appel. Suis-moi dans mon arche. Et telle est la bonne nouvelle que nous annonçons à la suite des apôtres. Ils nous ont laissé l'héritage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Et nous savons que ce témoignage est vrai. Et aujourd'hui, cette bonne nouvelle nous est offerte. Et si tu crois en Jésus, alors tu es héritier de la promesse d'Abraham. Paul le dit à la fin du chapitre 3 de la même épître aux Galates. Mais si tu crois vraiment en Jésus, alors Dieu te donne ton esprit afin de transformer ton cœur, ce qui a manqué à Noé. Et si tu as vraiment reçu l'esprit de Dieu en mettant une foi sincère, une confiance en Jésus-Christ, alors c'est Dieu lui-même qui garantit que son esprit produira en toi du fruit. Voici la marche du chrétien avec sa croix. Je reprends l'illustration des deux qui marchent. Nous n'avons pas de sujet d'orgueil, nous. Ah oui, notre marche, elle est étroite et elle est pénible parce que nous portons la croix du disciple. Mais nous marchons sur un chemin qui est solide, qui mène à l'éternité, dans l'arche même de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. Mais par contre, quand on voit ces bénis de Dieu, ces bénis d'Abraham, on doit être frappé par quelque chose. Est-ce que l'église de Jésus aujourd'hui a ça? On doit être saisi, frappé par son fruit. Si tu as mis ta foi en Jésus véritablement, alors tu n'es plus le même qu'avant. Et cette question, je nous l'adresse à tous de manière personnelle. Qu'est-ce qui a changé dans ton cœur? C'est une série de messages que j'ai faits pour en arriver à cette conclusion. C'est un message qui m'a touché personnellement. Ça fait quelques années de vie chrétienne, non pas que j'ai 50 ans de vie chrétienne, ça fait quand même quelques années de baptême. Je me tiens là dans cette église et je prêche. C'est bien joli tout ça. Quel est mon fruit devant Dieu? Comment puis-je évaluer ma foi avec sincérité? Quel regard je porte sur ma vie? Les larmes me montent aux yeux parce que il y a encore bien des sujets de souffrance, de peine. Cependant, j'ose le dire, je ne suis pas tout à fait le même qu'avant que j'ai connu Jésus-Christ. Telle est la vie du chrétien. Telle est l'assurance du chrétien. Ce n'est pas par une qualité intrinsèque. C'est parce que Jésus, dans sa grâce, opère dans la vie de celui qui met sa confiance en lui, son œuvre dans sa plénitude. Il ne fait pas les choses à moitié. S'il t'a sauvé, s'il t'a reçu, alors en toi, il produira du fruit. C'est une maturation, c'est une croissance. Les fruits n'apparaissent pas toujours mûrs du premier coup. C'est vrai que c'est difficile. Mais tu dois réfléchir à ta vie et te dire, mais Seigneur, quel fruit as-tu produit dans ma vie? Merci pour cet exemple que nous donne Abraham. Merci pour le don de Jésus-Christ. Merci pour son esprit. Je vais prier pour conclure ce message. Éternel mon Dieu, tu nous adresses ces enseignements par ce premier livre de la Bible qui trace le chemin de toute la suite. L'échec de Noé ne t'a pas découragé. Tu as mis à exécution ton projet. Et tu veux que tous ceux qui entrent dans ce projet entrent en te faisant confiance. Seigneur, ma prière, elle est toute simple. Donne-nous un cœur qui te fait confiance. Donne-nous un cœur qui te fait confiance. Transforme ce cœur de pécheur pour mettre un cœur qui te soit agréable. Donne-nous de porter du fruit pour ta gloire. Donne-nous d'être tes témoins, tes disciples. Fais ton œuvre en nous. À ton retour pour ton royaume, nous voulons faire partie de tes bénis, de tes élus, de tes disciples, de tes enfants, de ta famille. C'est notre espérance parce que c'est ta promesse. C'est ta promesse, Seigneur. Garde nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.